franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière émission de l'année. C'est au de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui va prendre véritablement son temps. Avec aujourd'hui Ludovic Asselot à la technique et assisté de Stéphane Combes, c'est Fabrice Laigle qui réalise cette émission. Allez, tournez, valsez, tournez la page d'une année sur la Terre. Roulez jeunesse, et oui, jeunesse de l'Inde, d'Afrique, d'Asie. Roulez vieillesse en Europe, en Chine, en Russie. Moi, je suis un bel endroit, paumé dans l'univers. Dans les guides bleus, dans les guides verts, on vante ma beauté. On devrait m'appeler la mer, on m'a nommé la Terre. Il y a tout pour y habiter. Pour s'aimer, pour semer, récolter, tisser des liens, il y a tout. Je suis à la bonne distance du soleil, ni trop froid, ni trop chaud. Ah, évidemment, sauf quand vous déréglez mon climat et que par la même occasion, vous vous coupez un peu les ailes. Bon, vous avez beau chercher dans vos télescopes, il n'y en a pas deux comme moi pour vous abriter. Vous avez de la terre, de l'eau, des végétaux, des pierres, un ciel, des animaux. Et dans ces animaux, il y a vous. Eh oui, des gentils et des fous. Ah, je suis quand même un peu bonne patte, hein, parce que je me demande si je dois encore vous supporter avec vos 200 000 ans d'enfantillage, vos balbutiements de nouveau-nés. Vous grouillez, vous me faites des enfants sûrs et dans mon dos, vous creusez, vous me perforez la couenne, me faites éternuer, vous acidifiez mes os. Avec vos neurones mal agencés, vous écrivez un drôle de drame. Mais, qui vous accablez votre accablant cerveau? Quand comprendrez-vous enfin que moi, j'ai des limites? Bon, vous, non, jamais, d'accord. Enfin, si, vous avez les miennes de limites, et oui. Mais vous intégrerez cela dans 50 ans peut-être. Or pour moi, vous savez, 50 ans, hein, c'est une demi-seconde, alors... Alors bah oui, je suis une terre finie. Mais attention, vous êtes géniaux. Ah oui, vous êtes géniaux. Mais à peine commencé, pas fini d'être cuit. Bouffi de vanité ou rempli du goût des autres. Prométhéen sans fin, vous êtes délicieux. Quand vous vous entretuez pour des dieux que vous avez inventés, auxquels vous croyez, ou bien pour des matières premières que mon ventre a mis des millions d'années à fabriquer. Ou bien encore pour de l'eau que vous ne savez pas partager. Mais un jour vous grandirez, hein, rassurez-vous, c'est normal. Ça a toujours été très long, l'évolution, c'est comme ça. La croix de Saint-André est blanche sous la neige ce soir. Et ce soir, ça va être la trêve. Des baisers mondialisés feront le tour de la Terre dans un filet cuivré en 3 ou 4G. De Rio à Oslo, de Canberra à Toulouse. Moi, je tourne autour du soleil depuis 4 milliards d'années. Et vous? Après quoi courez-vous? Allez, tournez, valsez, tournez la page d'une année sur la Terre. Le mode d'emploi de la vie apaisé, mais rien n'est perdu. Je vous assure, vous allez le retrouver. Chiche! On débute en 2012. Belle année à tous et plus encore aux enfants qui vont créer, réinventer et tourner sur les chevaux du manège en chantier. Alors au menu de cette émission, il y aura des voyages, du bien-être, des douceurs qui ne font pas grossir, je vous rassure. Il y aura du chaud de la mer Corse avec un aigle pêcheur dans la réserve de Scandola. Il y aura du froid sec en raquette sur les hauteurs du Kera, dans les Hautes-Alpes. Il y aura aussi un cheval qui sort délicatement des troncs pour ne pas casser la jolie forêt des Vosges. Bref, il y aura du dialogue entre l'homme et la nature à travers 3 rencontres, 3 reportages qui se sont déjà envolés dans vos oreilles. Il y aura Jean-Marie Pelt et puis, il y a des huîtres. Et oui, peut-être que vous les préparez actuellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est un peu superstar. Les prix ont suivi un peu le cours de l'or. Hein. Pourtant, il n'y a pas de perles dedans. Donc on va en parler avec vous, Emmanuel Leclerc, parce que vous avez fait une enquête lors de l'excellent magazine Interception il n'y a pas longtemps. 50% du chiffre d'affaires donc se fait à Noël et au moment du jour de l'an. Donc qu'est-ce que l'on peut dire, Emmanuel Leclerc?
Alors, cette année, écoutez, les prix, effectivement, ont explosé. Tout le monde s'en est rendu compte, hein, que ce soit chez le petit producteur sur le bord d'un trottoir, sur un étal ou dans les grandes surfaces. En fait, en l'espace de 4 ans, les huîtres ont pris en moyenne 30%. Alors évidemment, pour certains ostréiculteurs, vendre à des grandes surfaces fait qu'on ne peut pas augmenter les prix comme ça, on ne peut pas les faire exploser. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ostréiculteurs ont perdu la moitié de leur stock. Donc ceux qui pouvaient évidemment faire la culbute en matière de prix, eh bien, ont doublé leur prix. Et c'est le cas de Jean-Marc Chaillolo, qui est un ostréiculteur de l'île d'Oléron, que nous avions rencontré l'année dernière hein, sur place dans son exploitation dans le chenal d'Arson sur l'île d'Oléron. Eh bien, nous sommes allés le revoir cette année pour savoir si, évidemment, la situation avait évolué, si le virus tueur de jeunes huîtres était toujours très actif. Et malheureusement, évidemment, ça n'a fait que continuer. Et donc, nous sommes allés voir Jean-Marc Chaillolo et son adjoint Gégé sur leur étal à Nogent-sur-Marne, où ils viennent depuis 30 ans vendre leurs huîtres.
Cette année, les huîtres ont encore crevé au mois de juin. Le naissin encore, pour la quatrième année consécutive, il y a eu 80 à 100% de mortalité. Donc on a plus d'huîtres, on est vraiment au bout des stocks là maintenant. Donc maintenant tout le monde est suspendu à savoir comment est-ce que on va pouvoir retrouver une huître qui résiste.
Le jour où il n'y aura plus d'huîtres, eh ben, il n'y aura plus de virus. Donc, comme ça on sera peinard. Plus d'huîtres, plus de virus.
Oui, on peut le voir comme ça, c'est une solution, mais on va s'intéresser à l'avenir. Emmanuel Leclerc, sur quoi on travaille donc maintenant pour pérenniser la filière?
Écoutez, c'est ça la grande incertitude, la grande question, c'est de savoir comment faire pour évidemment produire des huîtres sans qu'elles crèvent, comme disent les ostréiculteurs. On ne sait toujours pas pourquoi les jeunes huîtres comme ça sont décimées chaque année. On sait qu'il y a donc un virus extrêmement virulent en l'espace de 4 ans. C'est un virus herpès.
Tout le bassin français. Hein.
Ah, ça touche tous les bassins de production, hein, que ce soit les bassins de reproduction naturelle, hein, que ce soit Oléron, le bassin d'Arcachon, comme les bassins de grossissement des huîtres dans Normandie, en Bretagne. Tout le monde est touché. Donc aujourd'hui, on en est à se demander s'il y aura toujours des huîtres dans 2-3 ans, si ce n'est pas la fin de l'espèce. Hein, est-ce qu'il y en aura encore un jour? Bah, écoutez, le Comité national de conchyliculture, évidemment, depuis 4 ans, multiplie les réunions. Alors des fois, c'est des réunions très très agitées. Hein, ça peut être très violent puisque, évidemment, certains ostréiculteurs traditionnels estiment que ce sont ceux qui produisent énormément d'huîtres de façon industrielle depuis des années qui sont à l'origine de ça. Mmh. Trop de production a fait que le virus, évidemment, a fini par exploser. C'est devenu une épidémie, c'est-à-dire qu'au départ, ça touchait 10 à 20% des parcs. Aujourd'hui, c'est évidemment 70% de la production qui est décimée. D'autres considèrent, comme le président du Comité national de la conchyliculture, Gull Van Brest, que c'est le réchauffement des eaux, les pesticides qui ont fait que les virus pullulent aujourd'hui dans les eaux françaises et dans le monde entier d'ailleurs, hein, parce que le phénomène touche évidemment d'autres mers à l'autre bout du monde. Et donc, ils essayent de trouver des souches résistantes. Et ils ont lancé un appel d'offres il y a quelques semaines. On attend le résultat pour associer à peu près tous les grands organismes qui se sont penchés sur la question ces dernières années. Je vous propose d'écouter Gull Van Brest.
Le gros programme de sélection génétique, comme vous l'appelez, mais qui est en fait une sélection naturelle, puisque c'est le croisement de familles résistantes dans le milieu naturel, ce programme ne donnera pas ses fruits avant 3 ans maintenant. Au mieux, je pense que ce sera plutôt dans 4 ans, 5 ans. L'idée est de regarder la carte génétique de ces huîtres, de croiser les huîtres les plus résistantes entre elles, en fabriquant à peu près 200 familles par an, au moins 2 souches de chaque bassin de production. Et à partir de là, on espère donc avoir, au bout de 3 ans, déjà une sélection très très forte, avec une diversité génétique suffisante, en fait, de rétablir un caractère de rusticité suffisant pour que l'huître résiste au virus, résiste aux bactéries, résiste à l'évolution de ce milieu et au changement climatique.
Bon, on résume un petit peu. Donc on a ce virus, l'origine on ne la connaît pas très très bien. C'est règlement de compte entre quand même ostréiculteurs en se disant « mais non, c'est toi qui as fait venir le virus parce que tu as trop de production, etc. d'un côté. Mais non, c'est le réchauffement climatique de l'autre. Ça peut être aussi d'autres saloperies qui viennent de la Terre, etc. » Bon, on va dire que c'est pas encore complètement identifié. On appelle la science, mais malgré tout, on n'est pas sûr de notre coup plus tard.
Ah oui, là, le programme, c'est une vision à 3 ans, 4 ans peut-être, 5 ans, mais sans aucune garantie de résultat.
Comme il y a quand même toujours eu dans l'histoire de l'huître des grandes vagues quand même qui sont arrivées. On a eu donc de l'huître japonaise après.
La portugaise tout d'abord, qui est pareil, a fini par disparaître. Ouais. Là, c'était la japonaise et il n'y a pas de remplaçante. C'est ça que vous disent les ostréiculteurs. C'est que pour l'instant, on n'a pas la remplaçante. D'accord. Donc si jamais l'huître japonaise n'est pas capable de résister au virus herpès, mais derrière, il n'y a absolument Rien.
Bon, bah, il nous restera de toute façon les couteaux à huîtres et le citron.
Et puis le foie gras et, voilà, et d'autres produits de luxe, puisque l'huître est redevenue un produit de luxe.
Eh bien, merci Emmanuel Leclerc pour cette actualité économico-gustativo-environnementale. Et dans quelques instants, ben, on va déguster Jean-Marie Pelt.
J'ai commis le mal que je ne voulais pas. Je n'ai pas fait le bien que je souhaitais. 50 ans de chansons derrière moi. Il est un peu tard pour appuyer ce replay. J'ai connu des hauts qui m'envoyaient en bas. Côtoyer la gloire et l'insuccès. 50 ans de chansons derrière moi. Il est temps de savoir où je vais. Des adieux, des regrets. Non, je ne vous ferai pas le coup du comeback à jamais. Ça serait mentir que de déclarer je n'ai jamais vu le temps passer. Et si la nostalgie est faite de ça, je la garde, je l'emporte avec vous, avec moi. Ça fait très longtemps qu'entre vous et moi le respect est tombé. 50 ans de chansons derrière moi, je suis fier de vous, de nos secrets. Ouh, je ne vous ferai pas le coup du comeback, des adieux, des regrets. Non, je ne vous ferai pas le coup du comeback à jamais.
Il nous fallait du solide, vous voyez, quelque chose qui a fait ses preuves là pour passer l'année. C'était donc Eddie Mitchell, choisi par notre programmateur Jean-Baptiste Audibert. C'était Comeback. Alors Comeback, bah oui, tout le temps, pratiquement toutes les semaines. Hein. C'est vous Jean-Marie Pelle. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors, on va terminer cette année, mais déjà commencer avec quelques vœux Jean-Marie. Lesquels? Puisque 2011 a été un véritable feu d'artifice à tout niveau, économiquement, socialement, environnementalement. Pour 2012, qu'est-ce qu'on se dit?
Ben ça sera pire.
Eh ben voilà, merci.
Donc,
au revoir.
Donc on va faire un vœu. Oui. C'est que tout s'apaise. Vous savez, je suis très frappé que notre monde et notre vie est de plus en plus frénétique parce que tout le monde s'agite, c'est de pire en pire. Tout change tout le temps, on réforme tout. Tout va de plus en plus vite, il y a tout le temps de nouveaux engins. Tout s'accélère et voilà que tout d'un coup, on est un petit peu, vous savez, comme le lait quand il est très très chaud et qu'il s'apprête à déborder. Oui. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors il faut se souvenir, mon Denis, il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, un monsieur qui s'appelait pas Fukushima mais qui s'appelait Fukuyama,
oui,
avait décidé qu'après la chute du mur de Berlin, c'était la fin de l'histoire.
Ah oui, c'est vrai.
Nous allions tous vivre en paix, oui, comme d'excellents consommateurs.
Oui.
Et il faut se souvenir qu'un autre qui s'appelait McLuhan avait dit que grâce aux nouvelles technologies, à l'internet en particulier, nous allions tous communiquer d'un bout du monde à l'autre et que par conséquent, tout naturellement, la paix s'instaurerait dans le monde. Bon, c'est complètement raté. Pour le point 1 et pour le point 2,
oui,
c'est absolument complètement raté. Et donc, on doit constater que voilà, ça s'est passé de la manière suivante. Le monde est géré par une oligarchie de l'argent qui fait que M. Beckham gagne 800 000 euros.
Plus c'est faux frais, plus c'est faux frais quand même.
Plus c'est faux frais,
s'il vous plaît, parce que sinon, on va faire un téléthon pour lui. Oui.
Ce qui est complètement insensé, mais on trouve ça normal. Bon, l'Europe, elle est déglinguée, comme chacun peut le constater, oui. Ce qui est désolant. Bon, le monde arabo-musulman est passé brutalement du printemps à l'automne, oui. Et dans certains pays, comme l'Égypte, quasiment déjà à l'hiver. Le conflit israélo-palestinien, c'est pire que jamais. Le Pakistan, la bombe atomique, mais les Américains n'y contrôlent plus rien. Bon, on pourrait continuer, mais on arrête.
Oui, parce que
tout le monde a compris.
Vous savez que les gens sont en train de réparer le réveillon, se disent, là, on est en train d'écouter Jean-Marie Pell, mais qu'est-ce que, même avec un ton extrêmement joyeux et badin, qui est le vôtre, qu'est-ce que l'on fait? Et puis, évidemment, si.
Eh bien, oui. On fait ceci. Chacun à sa place va devenir cette année un agent de paix. Et pour devenir un agent de paix, il faut faire ceci, il faut se déconnecter de l'instantanéité, de l'effet mérité de ce qui se déverse sur nous par tous les médias et qui sera encore pire puisque c'est l'année présidentielle, nous allons être complètement envahis. Donc prendre de la distance, privilégier sans doute un peu d'intériorité, ce qui va favoriser la qualité de nos rapports avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est tous les autres. Si nous voulons qu'il n'y ait pas de conflit entre l'Occident et l'Islam, c'est bien d'avoir des relations chaleureuses avec tous les musulmans qu'on rencontre et qu'on connaît. Bon, dans le quotidien, on peut faire ça. Et on s'aperçoit alors que ça change la vie, parce qu'on s'aperçoit que si on donne de l'amitié, de la fraternité, ça donne de la joie, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un premier plan.
Alors, certains sont en train de se dire, mais ça y est, Jean-Marie Pelt, effectivement, nous fait ce merveilleux couplet dont il a le secret de, et essayons de mieux vivre les uns avec les autres, ce qui est un excellent slogan, mais qui marche pas très bien depuis 2000 ans, quoi. Enfin, c'était aimez-vous les uns les autres.
En fait, vous étiez aimez-vous les uns les autres. Mon regretté ami que j'aimais tant, Théodore Monod, disait Jean-Marie, est-ce que vous êtes aperçu que ça marche pas du tout? Alors je lui disais, oui, ça marche pas fort. Et il m'a répondu, ben, c'est de notre faute, on n'avait qu'à essayer pour de bon.
Ce que j'entends vraiment, c'est qu'effectivement, il y a tout un travail, on va dire, intérieur. Donc ça vient de la personne. C'est aussi ce que nous dit d'ailleurs Pierre Rabhi.
Oui.
Et à côté de ça, il y a quand même des institutions. Il y a quand même des politiques. Ce sont eux qui prennent les décisions. On le voit d'un point de vue aussi environnemental. Donc, qu'est-ce que l'on peut souhaiter aussi à cette planète, quoi?
Eh bien, nous allons souhaiter ceci à la planète. C'est que ce qui se passe, c'est une crise extrêmement importante. Et dans cette crise, on va la baptiser de son nom grec, de Kairos, enfin les Grecs d'anciens, pas ceux qui font faillite en ce moment, les anciens Grecs. Oui. Ils disaient, le Kairos, la crise, c'est quand l'ordre ancien, l'ordre actuel, commence à se fissurer, à se désagréger, à se déliter. Bref, c'est quand on voit qui se passe en ce moment, au niveau des finances, de l'économie, etc. Et les Romains ont traduit ce mot Kairos par opportunitas, parce qu'ils ont dit, c'est justement le moment où des choses nouvelles peuvent commencer à émerger, parce qu'il y a de la place qui se fait, exactement comme sur un compost où la végétation se décompose, mais qui va permettre la renaissance de la génération suivante. Et en réalité, le vœu que je voudrais former, c'est ceci. Vous voyez, beaucoup de gens disent, on ne peut rien faire, c'est trop tard. Non. Non, non et non. L'abbé Pierre, qui était venu dans notre institut il y a quelques années, me disait, quand il était découragé, il tapait sur la table un grand coup de poing et il disait « quand même ». Nous devons dire « quand même ». Et nous devons constater que de nombreuses initiatives sont prises partout, par les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, les fondations, partout, pour que justement un nouveau type de société se mette à émerger. Et ça, on ne le dit pas assez. Moi, je suis très frappé, pour circuler un peu partout dans notre pays et ailleurs aussi, de cette masse d'initiatives. Et en réalité, nous sommes dans les opportunités de changement. Et nous pouvons changer. Et tout d'un coup, nous pouvons avoir un basculement. Et tout d'un coup, nous pouvons nous réveiller dans une société un peu différente de la société de l'ultralibéralisme débridé. Mais ça va dépendre de nous, de notre capacité de résistance d'un côté et de notre capacité d'initiative de l'autre. Et moi, je formule ce vœu, mais vraiment très fortement, que surtout, nous ne perdions pas nos idéologies, bien que le mot n'est pas très bon. Mais je vois tant de jeunes qui ne sont reliés à rien, qui n'ont pas de repères. J'en vois beaucoup, vous savez, dans les lycées, dans les collèges, partout. Je leur dis, mais non, ne croyez pas que c'est foutu. Ne croyez surtout pas ça. Mais c'est vrai que que c'est très important.
Eh bien, merci Jean-Marie de tourner le regard différemment à l'aube de cette nouvelle année. On entend bien, de toute façon, on est bien d'accord sur ce changement de civilisation, sur le fait de retourner le gant et de redistribuer les cartes autrement. À la semaine prochaine, Jean-Marie, on va parler des arbres la semaine prochaine.
Au revoir Denis, au revoir à tous, belle et bonne année.
Et puis on va vous offrir, tenez, une première petite balade, puisque là on a enfilé donc nos raquettes. Nous allons partir dans le Queyra, qui est une très belle entité dans le département donc des Hautes-Alpes. On est au sud de Briançon, on n'est pas très très loin d'Embrun, alors on peut y pénétrer à vélo par le col de l'Isoard, je vous le déconseille en ce moment, je vous êtes un petit peu fermé, par la vallée du Guil ou bien par le col Agnel, et à 1600 mètres d'altitude du côté de Seillac, pas très loin de Saint-Véran. On va rejoindre Yves Fou, qui a une cinquantaine d'années, qui est un guide accompagnateur, qui passe son temps, on va dire, entre la Macédoine, le Kosovo et en hiver. Donc ce Queyra qui est sublime dans ce parc naturel régional, qui fait un boulot d'ailleurs assez formidable. Et on va prendre ce bol d'air avec lui. Donc allez, on est parti dans un milieu assez bien équilibré avec Yves Fou en raquette. Ne dérapez pas.
Donc là, on est dans une forêt mélangée. Il y a deux types d'arbres à cette altitude. On est à 2100 mètres à peu près. Donc on a des mélèzes qui sont faciles à reconnaître parce que c'est le seul résineux à aiguilles caduques.
Il perd ses plumes.
Donc, il perd ses plumes. Il a un peu l'impression qu'il est mort. Ouais. Et puis juste à côté, on a ce bel arbre. Donc ça, c'est le pin sombreau. Alors ça, c'est la liberté avec les raquettes.
Là, on
passe. Est dans un relief. Où il n'y a pas vraiment d'accident de terrain, vallonné, ça descend, il y a des petites bosses, et hop là,
allez.
On fait la petite bosse à la descente, c'est très rigolo. Pour arriver à se régaler dans une neige comme ça en étant skieur, il faut déjà avoir un sacré niveau. Hein, donc,
Et là, pas du tout.
Et là, pas du tout. Non. Là, on arrive à se faire plaisir.
Wow. Alors là, nous sommes les hommes les plus heureux de la Terre. Aïe, aïe, aïe.
On est bien.
Ça, il y a toujours ce mélange de rigueur, d'âpreté, de décor quasiment de carte postale, comme on dit.
Justement, on n'est pas devant une carte postale, on est dedans la carte postale, on est un élément de la carte postale. Alors c'est vrai qu'on est bien habillé, on a nos habits, nos trois épaisseurs, parce qu'il fait moins de 12 et qu'il y a du vent, donc il faut être bien habillé. Donc...
De même que la marmotte est aussi bien habillée. Ouais,
la marmotte, elle est bien habillée, puis elle roupille, elle a trouvé la meilleure solution pour passer l'hiver, c'est d'attendre que ça passe. C'est pas mal comme technique.
Simple mais efficace.
C'est simple, mais vachement efficace. Résultat, elle vit plus longtemps que les autres, donc elle n'a pas tout à fait tort. Et
ouais. Ah oui, là c'est vrai que des raquettes aux pieds, ça change, hein. C'est pas des skis, c'est pas les après-skis.
Là j'aurais pu t'en donner des plus petites, mais ne connaissant pas le gabarit de la bête, j'ai choisi ce modèle-là.
Bon.
Voilà.
Alors, donc maintenant ça c'est une pratique pour découvrir évidemment la montagne, qui date depuis pas mal de temps ici.
Ah, les raquettes en fait c'est plutôt originaire de la Savoie, parce que c'est les accompagnateurs savoyards qui avaient commencé à en faire. Et donc les raquettes dans les Hautes-Alpes, ça fait une quinzaine d'années que ça s'est développé.
Et donc on vole sur la poudreuse, hein. C'est un peu ça.
Ah oui, bon, ça dépend aussi de la qualité de la neige. Hein.
Ouais.
Et les coups de redoux ont tassé la neige. Donc là, on est en train de marcher l'air de rien sur un bon mètre de neige.
Ouais.
Et on s'enfonce de même pas 20 cm. D'accord. Alors il n'y en a qu'un qui n'est pas trop d'accord avec l'épaisseur de neige, c'est lui. C'est un petit arbre.
Ouais.
Il a été plus ou moins écrasé par la neige. Alors bon, au printemps, il va se redresser, mais... Et on comprend mieux aussi, quand on voit l'épaisseur de neige et le pin sombreau donc, qui est là, pourquoi un pin sombreau de 1m30 de hauteur en moyenne à 30 ans.
Parce que
c'est un arbre avec une croissance très lente et en fait, quand il est sous la neige, il y a une période là de la neige comme ça, il y en a jusqu'au mois de mai. Donc pendant 6 mois de l'année,
il courbe les chines.
Voilà, il courbe les chines et il ne pousse pas.
Ce Queyra, comment il peut se définir quand on ne connaît pas ce coin?
Le Queyra, c'est une montagne. Enfin, c'est une montagne. Ce sont des vallées, habitées en permanence, des vallées vivantes, hein, avec une montagne qui est un mélange de hautes montagnes, un peu âpres, un peu austères, minérales. Quand on fait le pain de sucre, c'est minéral, c'est le Tibet presque. Hein. Il ne manque plus qu'un monastère avec des drapeaux à prière et puis on est au Ladakh ou au Tibet. Puis c'est des vallées habitées avec des formes douces, des maisons. Mais, bon, c'est un endroit que je trouve fabuleux parce que ce ne sont pas des montagnes agressives. Donc là, on est à côté d'un mélèze. Alors, les mélèzes, quand ils sont un peu âgés, ont une écorce très crevassée. Ouais. Et là, quand on regarde dans l'écorce, qu'est-ce qu'on a? On a des cônes de mélèzes qui sont coincés dedans. Donc ça, c'est le pic épêche, qui est un des rares oiseaux qui hiverne chez nous, qui n'a pas migré, et qui se nourrit en hiver essentiellement des graines du mélèze. Okay. Hein, donc il se sert de la fonte comme d'un étau. C'est sa forge.
Alors quand on vous écoute, là, il faut qu'on se rend compte que de toute façon la première ressource, et c'est aussi seulement pour ça que vous êtes là, c'est évidemment la nature, ce qui nous envahit.
La raquette, mais il y a deux petites bricoles à savoir.
Bien droit.
Et en faisant des petits pas, ça marche tout seul.
Non, mais ça rappelle de toute façon la technique du ski de fond, à part qu'on ne glisse pas, mais avec le pied donc qui se détache, le talon qui se détache. Et alors, il faut le rappeler, on a ici un air délicieusement sec, donc très peu d'humidité.
Ce qui fait que il faut vachement boire, parce que sinon, on se retrouve avec des crampes et des courbatures.
Je passe devant, parce que là le chemin se rétrécit. Et puis il y a quand même cette lumière qui est absolument étonnante. Je ne sais pas par quoi elle est filtrée, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est la lumière des Hautes-Alpes.
Oui, c'est la lumière des Hautes-Alpes, c'est des lumières d'altitude en fait. C'est vrai que l'air est plus sec, donc il y a moins de filtres par rapport à la plaine. Il faut se méfier aussi par rapport au soleil, il faut faire vachement gaffe. Mais bon, c'est vrai qu'on a des qualités de lumière extraordinaires. Il y a toutes ces montagnes qui deviennent orange, rose. C'est une petite merveille. On va au lac ou on va à la falaise?
On va au lac.
Donc pour aller au lac, on va commencer par faire une petite descente. Oui. Alors la descente à raquette, on a dit que la neige c'était doux. Donc la neige, il faut y aller doucement quand on descend dedans. Bon. Comme si on descendait dans une dune de sable. Oui. En appuyant bien sur les talons. Il y a 20 cm de poudreuse sur une neige un peu plus dure. Donc ça devrait être un pur régal.
Bien. La pente, elle fait combien là, Yves? 25 degrés, à peu près?
Tiens, casse-toi mon ch'téki.
Bon, alors évidemment, il y a un autre animal dont on parle, pas forcément ici même, au-dessus de Seillac, c'est le loup. Dans le Kera, le loup donc est revenu. Alors, bon, il est revenu par ses propres moyens, hein. Il est pas venu en stop, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, ce sont les mêmes souches que les loups des Italiens.
C'est le loup des Abruzzes.
Le loup des Abruzzes, qui après est passé dans le Mercantour.
Ce qui va que le loup va s'installer ou pas dans une région, c'est la quantité de nourriture qu'il y a en hiver.
Oui.
En été, il y a toujours de quoi manger. Il y a plus de mammifères qui sont sortis, il y a les marmottes, il y a un petit peu plus de chamois, il y a eu les
rouges, les grands-mères.
Il y a le chaperon rouge, les grands-mères, les touristes. Enfin, bon, non, pardon, c'est ce qu'il ne fallait pas le dire. Ça.
Maladroit.
C'est terrible, je vais me faire virer. Et donc, comme par hasard, on s'est aperçu que les deux meutes de loups qui sont installés dans le Kera sont installés dans le secteur d'Abriès et le secteur d'Arvieux,
ouais.
Et que c'était des secteurs où il y avait du mouflon.
Bah, il n'est pas bête, hein, il les a sous la main. Hein, donc...
Bien sûr, hein, c'est un animal, comme tous les prédateurs, qui cherche à se fatiguer le moins possible.
Ouais.
Donc déjà, le mouflon, on n'aime pas trop la neige, donc il court nettement moins vite,
ouais,
que le chamois dans de la neige.
Ouais.
Et puis aussi, il va se fatiguer plus vite, donc il va y avoir une sélection naturelle un petit peu plus forte. Et puis, bon, c'est principalement sa proie hivernale.
Alors, comment se passe après la gestion donc, de ce loup?
Ben, déjà, dans le Kera, les troupeaux ont toujours été gardés. Alors là, on a été obligé quand même, avec le loup, de modifier quand même un tout petit peu. Donc, on a refait toutes les cabanes d'alpage. Oui. Il y a les patous.
Dans les esprits, ça se passe comment?
C'est frais, l'arrivée du loup. Donc, comme c'est frais, c'est vrai que on en avait un petit peu perdu l'habitude. Et puis, finalement, le problème, c'est aussi un problème de chasseur. C'est pas qu'un problème d'éleveur. Mais ça, après, c'est une question de partage du territoire et d'admettre que le seul prédateur, c'est pas le chasseur, c'est aussi le loup.
Wow! Ah oui, ça valait le coup quand même de s'arracher un petit peu avec les raquettes. Ça y est, un lac! Bon, faut pas imaginer évidemment des...
Alors ça, c'est toujours la grande surprise.
Bah oui, où est-il? Où est-il? Non, si on voit très bien. À part qu'il y a quand même une bonne couche de neige et de glace dessus. Ce qui fait que pour la photo avec les yeux bleus du lac, c'est loupé, quoi.
Ouais. Ça, ça surprend beaucoup parce que le lac Miroir, c'est une des balades que je fais à la demi-journée le plus souvent.
Ouais.
Et lac Miroir, la plupart des gens s'imaginent naturellement voir de l'eau. Et puis quand on arrive ici et que je dis, ben voilà le lac,
bon, ils vous traitent de voleur, non?
Des cris de
remboursé.
Puis après, ben, quand j'explique que l'eau, c'est... Donc l'eau, quand il fait froid, ça gèle. Que sur,
ah non, c'est vrai.
Que sur la glace, ben, il neige et que ça fait une surface plane et blanche. Tout le monde dit, ben oui. Donc là, on va s'approcher du lac. Alors on voit qu'il y a une trace qui passe pas tout à fait sur la terre. Hein, donc la trace la passe sur le lac. Alors on pourrait passer sur le lac. Mais bon, c'est vrai qu'avec des raquettes, une fois qu'on est passé à raquettes, la virginité, c'est terminé.
Ouais.
Donc en fait, je passe sur le côté pour le laisser beau.
Oui, et puis très honnêtement, on n'avait pas forcément envie de terminer un 31 décembre comme ça, au fond de l'eau, c'était pas forcément utile. Merci beaucoup Yves Fouque, et merci à ce Kera, donc tout à fait superbe. Et je vous signale que, ça tombe bien à 31 décembre, que le numéro de Alpes Magazine de décembre-janvier est consacré aux écrins, donc pas très loin donc du Kera. Et que vous avez un très joli portrait de Christian Couloumi, hein, qui est garde dans ce parc national des Écrins, ami de longue date, que vous entendez régulièrement dans ce magazine. Donc si vous voulez découvrir le personnage, eh bien c'est tout à fait possible. On va changer de climat. Ah oui, dans quelques instants, nous allons partir en Corse dans la réserve de Scandal.
C'est bien votre histoire d'environnement, elle a continué à environner, nous on sera toujours contente.
Ah ben venez, on vous suit, vous savez, on est prêts à vous pousser au derrière.
Hein. Vive l'environnement, allez-y,
oui,
hop,
allez,
hop là. CO2, mon amour, Denis Chessou. In this madness, in this world, with its swiftness and its coldness, you're my peace of mind. Yes. When the world just keeps turning, and I know not where to head to, you're my peace of mind. When I look up in the skies, it's the honor you created. Nothing else to count for your everlasting love. Oh, 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 shining star, where you smile down on me. Oh, what you are, where you look down.
Eh bien, c'était Neka, donc pétillante chanteuse de Birmingham, vous l'avez peut-être reconnue, qui interprétait Shining Star. Et vous avez reconnu cette mer, mais vous allez, mais c'est de la Méditerranée, mais vous avez gagné. Mais oui, car nous allons partir en Corse, nous allons partir dans la réserve de Scandol, qui est très belle, qui est une réserve naturelle dans le parc naturel régional de Corse. Vous n'avez rien de national là-bas. Non, c'est toujours régional, sinon ça ne va pas et ça risque de péter. Bon, et donc nous avons donc 1000 hectares de mer dans cette réserve. Vous en avez autant en terre et vous avez cet animal assez emblématique qui est l'aigle pêcheur de cette réserve, le balbuzard. On va donc le rencontrer avec Jean-Marie Dominici qui a fait un boulot formidable avec toute son équipe de protection, de conservation parce que il n'y avait que deux aigles, enfin deux couples seulement, pardon, dans les années 75 et aujourd'hui ils sont plus d'une trentaine. Donc les choses ne vont pas si mal. Quand on y met les moyens et un peu de patience, eh bien ça fonctionne. C'est parti. C'est un coup à prendre, mais c'est pas très dur de faire un créneau avec votre bateau quand même.
Surtout lorsque la poignée est cassée.
Oui.
Non, mais c'est une question d'habitude, le créneau c'est facile.
On est en fin d'après-midi, on est sur un soleil couchant. On va rappeler que cette réserve de Scandol, on la doit en fait au volcanisme à l'origine.
Voilà, c'est un complexe volcanique qui date de la fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, et qui, par sa conception géologique, fait que nous avons plein de promontoires qui dominent la mer.
Ouais, c'est
et c'est ça qui est le biotope favorable pour la fixation d'un site de nidification du balbuzard.
Il ne va pas dans les anfractuosités, il est toujours au sommet.
Il est toujours au sommet pour être bien exposé à l'air marin, pour bien se ventiler, puisque c'est un oiseau qui ne va pas nicher dans les grottes, qui nique carrément sur le promontoire. Et avec l'air marin, en faisant de l'ombre à ses petits poussins, il arrive à créer une ventilation qui permet à cette espèce, au poussin, de vivre. C'est-à-dire qu'il sera vital pour le poussin de rester à l'abri des rayons de soleil en se mettant sous la mer.
Oui, parasol,
la mer joue le rôle de parasol. Et ça, c'est un côté très important pour la vie de cette espèce. Vous voyez qu'on est au bord des falaises rocheuses de la réserve de Scandol. Et vous voyez ces pitons qui font environ 50 à 70 mètres de haut et qui dominent la mer. Et de là, le balbuzard arrive à observer les poissons pélagiques dont il se nourrit, comme le mulet, les oblades, tous les poissons qui vivent en surface. Et comme les eaux de Scandol sont très claires...
C'est-à-dire qu'il ne plonge pas forcément très profond. Quoi.
Il arrive à plonger au maximum de 80 cm.
Ouais.
C'est-à-dire que la vitesse, comme c'est un rapace qui est très rapide, un peu comme le faucon pèlerin...
D'accord.
Les serres en avant, les pattes en avant, il prend avec les serres.
Voilà.
Il peut pénétrer dans l'eau avec la vitesse à une profondeur maximale de 80 cm.
Ils ont une vue étonnante, quoi. Ils voient des choses que nous, on ne repère pas.
Voilà, ils arrivent à voir des petits poissons, en plus qu'ils arrivent à se faufiler entre les petites criques et les infractuosités rocheuses. Bon, dans l'ensemble, c'est un très bon chasseur.
Alors, les ailes et le poignet, quelle est son envergure ?
L'envergure du balbuzard est d'environ 1,75 m. Vous voyez que donc, c'est une envergure assez impressionnante. Mais il a un corps tout petit. Et donc, en poids, il fait environ 1,8 kg à 2 kg. Mais c'est un très bon planeur, puisqu'il a de longues ailes. Et ce qui lui permet de longer la côte, comme ce sont des côtes et un secteur très exposé au vent dominant, il doit avoir les moyens de résister, de se faufiler entre les falaises, toujours en longeant la mer pour repérer sa proie. Un peu vers les rochers, donc on va se dégager un peu.
Ah oui, là on fait une petite manip, parce qu'effectivement on est vraiment au pied maintenant de l'habitat de l'aigle pêcheur. Alors ce qui est toujours étonnant, c'est donc tous ces dégradés de couleurs de pierre. On a des verts, on a des rouges, on a des ocres. Et tout ceci étant souligné ou bien rehaussé par la végétation, enfin c'est fou quoi.
Ouais, le contraste de couleurs entre le vert de la végétation et les ocres et les couleurs grisâtres des basaltes sont vraiment super. Là. Bon là on va quitter ce site qui est magnifique pour se rendre dans la baie d'Elbe qui est le cœur de la réserve de Scandol, pas loin de la zone intégrale.
Alors là, cette zone est donc protégée, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire?
Bon déjà dans cette zone qui est la zone centrale de la réserve de Scandol, le mouillage y est autorisé le jour mais pas la nuit.
Oui.
Ensuite, tout prélèvement est interdit, que ce soit sur la partie terrestre comme sur la partie marine, hein, c'est-à-dire toutes les espèces de poissons, coquillages, même les minéraux, tous les végétaux. Tout ceci, ce sont des mesures qui sont vraiment strictes et dont les gardes de la réserve sont habilités à dresser procès-verbal par rapport à ce genre d'infraction.
Bon, vous jouez pas un peu les Starkey et Hutch avec votre bateau de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein,
Starkey et Hutch, c'est un bien grand mot, mais non. C'est sûr que la passion de la gestion de cet espace est un peu la gestion comme s'il s'agissait de notre patrimoine à nous, Corse.
Alors là, autre lieu de la réserve et autre nid, c'est sacrément construit, hein, c'est une petite tourelle.
Voilà, c'est un autre site de nidification qui est dans la baie d'Elbeau, qui est dominé par une magnifique petite tour génoise. Voilà. Le nid est vraiment sur un promontoire rocheux et en plus ce petit rocher est un îlot. Donc les renards, qui sont les prédateurs du balbuzard, n'ont pas accès. Donc il a bien choisi le site, vous voyez.
Oui. On évite les renards alpinistes. Hein. Voilà.
Non, nous ne sommes pas des poissons. C'est pas la peine de nous regarder comme ça. On est trop gros. Trop gros pour toi, Pépère. Jean-Marie Dominici, racontez-nous maintenant l'histoire de Madame et Monsieur Balbuzard. Comment ça se passe entre eux?
Pour retracer un peu la saison de reproduction du balbuzard sur notre site, en général, le couple balbuzard, le balbuzard, le mâle, puisque c'est le premier qui arrive sur le secteur, arrive aux alentours du mois de février. Et c'est lui, par des parades amoureuses, qui va fixer une femelle. En général, c'est toujours la même, il y a une fidélité du couple. Il attire la femelle sur le site en lui présentant une offrande. C'est un peu comme pour l'homme, hein. Oui. Il faut qu'il fasse le beau en attirant une belle femelle.
On va au restaurant.
Donc là, en général, il va pêcher un très beau poisson. Il va exhiber par des vols très acrobatiques. Le poisson, il va le faire briller avec les reflets du soleil. Et là, il va tirer donc une femelle, il va la fixer au nid. Vont avoir lieu les accouplements sur le nid. Et à partir de là, la saison de reproduction va commencer avec, à partir de l'accouplement, environ une semaine à 15 jours après, la ponte de 3 à 4 œufs par couple. Donc là, on va se retrouver dans un petit moment, tout seul, dans la réserve.
C'est bien.
Comme il y a quelques années en arrière, quelques centaines d'années, où on pouvait observer une petite galère qui venait chercher du charbon de bois. Ou une petite barque de pêche qui venait se déplacer à la voile, poussée par la tramontane. Donc on se retrouve facilement, en laissant un peu l'imagination faire.
On laisse dériver le temps facilement.
On laisse dériver le temps, on traverse le temps et les âges sans problème.
Mais quand même, avec nos amis balbuzards qui sont là.
Voilà, c'est ça.
Ah oui.
Et le balbuzard est bien vigilant et présent sur la zone.
Le bal du buzard, le bal buzard, donc cet aigle pêcheur. Merci à Jean-Marie Dominici qui est un passionné, qui est donc, vous l'avez compris, gardien donc de cette réserve de Scandale, qui est une pure merveille encore. C'est donc après le Kéra, après le niveau de la mer, je vais vous emmener dans quelques instants dans les Vosges. On va aller débarder, on va sortir des bouts de bois. Ce sera après Henri Salvador.
Mademoiselle qui passait sans souci dans vos rêves bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec. passer sans souci. Dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves, font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tout et toujours ne rime qu'avec un nuit.
Mademoiselle, j'espère que vous allez bien chez vous, tranquillement, peut-être en train de préparer ce réveillon. Et donc, on va poursuivre ce voyage. Cette fois-ci, on va aller dans les Vosges, dans le massif des Vosges. Et on va rejoindre un homme qui a la passion du cheval. Je vous avais déjà diffusé ce reportage, mais qui est assez... Allez, je crois que ça fait du bien. C'est parti, on y va. On va découvrir Francis Dopf. Tout d'abord, ce sont des odeurs de terre, des odeurs d'humus lavé par une pluie tout à fait récente. Le décor, c'est une forêt avec un chemin extrêmement pentu. Forêt des Vosges, puisque nous sommes dans la réserve naturelle du Grand Ventron. Un joli silence de forêt, quoi, c'est-à-dire un silence habité. Et on va s'approcher de l'homme et de sa bête.
Ist, Roman. Ist, on travaille, allez. Ist.
Un œil averti, vous direz qu'il a hérité du cul de l'Ardennais, qui est le point de force, hein. Il n'y a pas de mystère du cheval de trait. Donc, disons, pour sa taille, c'est assez extraordinaire ce qu'il arrive à tirer. Bon, là, il frime un peu, parce que dès qu'il y a du public, il sait très bien que je ne peux pas me fâcher. Alors, il en profite sans scrupule.
Alors, je ne sais pas s'il y a un syndicat dans votre profession, parce que vous savez combien vous êtes ici en France à pratiquer donc le débardage, mais à cheval.
Bon, écoutez, on est dans les recensements, on dit une cinquantaine, mais bon, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, soit parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, soit parce que les conditions sont très difficiles. Ouais. Le jour où ils se mettent à calculer ce qu'ils gagnent, en général, ils arrêtent. Ou sinon, c'est des gens comme moi qui ne savent pas calculer au bout de 20 ans.
On compte pas les heures, quoi, en gros.
Voilà, bon, ouais. c'est disons qu'il y a... Bon, dans tous ces métiers, de toute façon, les métiers de la forêt sont globalement des métiers moins payés que les autres. Hein. Ça, c'est réservé aux fous un peu spéciaux, quoi. Les collègues qui font du débardage, par exemple, par câble aérien, une chose qui est très courante en Autriche.
Qui semble assez écologique, en plus.
Ouais, qui est extrêmement écologique. Et en plus, bon, auquel je m'intéresse beaucoup, et le parc des ballons un peu aussi, parce que je pense que combiné avec le cheval, c'est vraiment l'association de l'aveugle et du paralytique. Quoi. Ouais. Disons que c'est pas spécifique au cheval, quand on pourrait dire encore ça c'est rétro ces trucs, mais j'ai l'impression que tous les débardages qu'on dirait un peu alternatifs, ça a beaucoup beaucoup de mal à passer.
Alors, quels sont les avantages, je dirais, écologiques du débardage à cheval? Parce que là, donc, nous sommes sur un chemin, on pourrait faire passer un bulle. Et puis après, on aurait une piste, mais ce serait quand même sacrément défoncé.
Alors écoutez, je peux être très franc. Ouais. D'une manière générale, disons, c'est pour la sauvegarde des peuplements. C'est-à-dire, il y a des effets, grosso modo, tassement du sol, limitation des dégâts aux arbres en place. Disons, c'est essentiellement pour des raisons sylvicoles. Ouais. Plus les arbres sur pied sont précieux, plus ça se justifie. Le souci, c'est le dégât au peuplement.
Et alors, pourquoi il y a une culture du débardage à cheval ici dans ce massif des Vosges, de même qu'il y avait la culture de la schlitte, enfin, c'est-à-dire du transport par luge?
D'abord parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres qui n'étaient pas chères, qu'on n'aurait pas toléré, à l'époque où la forêt était une grande rareté, on n'aurait pas toléré le moindre dégât aux arbres. Hein, j'ai encore vu des comptes rendus de procès-verbaux de la fin du XIXe siècle, des gens qui avaient des procès parce qu'ils avaient fait ce qu'on fait là maintenant, tirer des bois tout droit dans la forêt, et sur le procès-verbal, il y avait mesuré en centimètres combien il y avait de dégâts sur les arbres et tout. Donc les chemins de schlitage, c'était la seule façon de passer. Oui. Hein, il y en a ici, bon, quelques-uns, si une fois vous avez le temps, c'est spectaculaire, c'est impressionnant aussi. Bon, quand on a été devenu un peu plus exigeant pour les hommes, on a vite arrêté ça, hein, comme on disait, bon, la grande classique, si on disait la schlitte crève à la montée et tue à la descente. Bon, moi, dans mes proches voisins, hein, donc là où était mon grand-père retraité, le village de la Baroche, je ne compte pas le nombre de gens dont j'ai entendu parler. Quand j'étais gamin, les forêts étaient encore pleines de petites croix en souvenir des accidents de schlittage.
Là, vous venez de planter.
Alors là, ça s'appelle un crochet plantant, ou sauterelle, ou blitzhocker. Enfin, il y a au moins 15 dénominations pour ça. La particularité, c'est que normalement, quand le bois, quand on tire à contresens, ça se décroche. Moni, doucement, doucement. Ishtarum. Voilà, vous avez vu le principe. Attention, vous êtes dans la trajectoire. Attention, attention, sauvez-vous vite.
Là, il faut expliquer que le tronc est parti tout seul, mais il n'y a pas de dégâts.
Non, mais c'était prévu, mais pas tout à fait là, quoi. Voilà, ça s'appelle du lançage. Hein. Alors d'habitude, on fait avec des quilles, mais...
Donc votre travail, c'est de sortir vraiment le bois des endroits difficiles.
C'est ce qu'on appelle le débuscage. C'est-à-dire là, on est dans le peuplement, vous voyez, il n'y a pas de passage tracteur. Sinon, le tracteur, il utilise un câble. Oui. Et il treuille. Bon, alors si ce gars a beaucoup de temps, qu'il est très soigneux, il tire bien. Mais comme il n'a que la ligne droite pour tirer, bon, y a des frottements au peuplement. Non, mais commence pas à frimer, toi. Hein. C'est moi qui parle. Hein. Donc, les conditions normales d'emploi du cheval, là, c'est chaque fois entre deux chemins.
Ouais. Ça doit quand même vous faire, à lui comme à vous, pas mal de dénivelé dans la journée, ça. Hein.
Oui. Non, ça, c'est surtout du côté de Wildenstein. Alors là... Yep, mon grand. Laissez dire. Yep, dis. Ich. C'est pas parce qu'il y a du public. Ich. Yep. Yep. Allez. Mais c'est ich. Bon, tu. Ich. Bon, allez, je vais me fâcher. Ich.
Vous voulez parler, hein?
Oh, c'est un mélange d'alsacien, de vosgien. C'est en fait, c'est un verrouillage pour le. On peut pas me le voler, quoi.
Oui. Wow. C'est un code.
Voilà, c'est un code. Oui. Quelqu'un qui essaie de me le piquer, il est dans le ravin au premier carrefour.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, Francis Dope. Vous saluez Mordi de ma part. Moi, je ne vais pas le caresser parce qu'on ne se connaît pas.
Et voilà, et puis alors, comme c'est un monsieur très spécial, enfin maintenant, ce n'est pas grave, on termine, mais comme il a l'habitude, la caresse, c'est le signe que le travail est terminé. Si quelqu'un le fait avant la fin, c'est un peu comme un.
Je ne veux pas casser votre.
Voilà, je suis un peu comme un instit qui mouvement. Doit continuer la classe quand la cloche a sonné.
Et oui, c'est la fin du voyage. J'espère que cette petite balade à travers différents coins de France, eh bien, vous aura plu. Merci à Ludovic Asselot à la technique, à Stéphane Combe, à Fabrice Lègle qui a réalisé l'émission. Et puis, j'ai quelques instants pour vous dire quelques petits mots. La prêle des champs, la carotte, l'avoine, le genévrier, la petite pervenche. J'en aurai beaucoup comme ça. Eh bien, se trouve dans un agenda qui est absolument superbe, qui s'appelle l'agenda Nature 2012 aux éditions Ouest France, qui a été réalisé par Dominique Mention, qui est à la fois un artiste, un naturaliste, un homme qui a aussi beaucoup, qui continue à faire beaucoup sur les trognes. Donc, il défend des territoires, il défend donc des végétaux. Et donc, cet agenda, je crois que c'est vraiment un cadeau formidable pour 2012. Donc, avec ses dessins très minutieux, avec ce thème donc des plantes médicinales. Et donc, cet ouvrage nous révèle qu'avant la pharmacopée actuelle, eh bien, existait une profonde connaissance des végétaux et de leur usage curatif. Aux éditions Ouest France, l'agenda nature 2012 de Dominique Mention. Les remerciements, bah oui, si, oh, attendez, il y a Jean-Baptiste Audibert, il y a Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Possibilité pour vous de réenregistrer cette émission, donc pendant une semaine et de la réécouter pendant 4 semaines. Semaine prochaine, on se retrouvera au milieu des arbres, une émission donc consacrée aux arbres en ce début d'année. Je vous souhaite un excellent week-end et tout le bonheur possible pour vous pour cette nouvelle année. Salut.